Les matins de France Culture.
Le billet politique, Frédéric Saïs, une campagne pour la campagne.
Oui, l'agenda politique du gouvernement semble être conçu comme un calendrier de l'Avent. À chaque jour, son actualité qui chasse le goût de la précédente et qui laisse sur sa fin pour celle du jour d'après. Tenez, rien qu'en une semaine, vous avez vu défiler le rapport Taché sur l'intégration, le rapport Spinetta sur la SNCF, la réforme de l'hôpital, la réforme du baccalauréat, etc. Face à cela, le reste de la classe politique subit, acculé à devoir réagir quotidiennement à l'annonce du jour. Les oppositions jouent en contre et peinent à imposer leur sujet. Alors pour les entendre, loin du tambour de la grosse caisse de l'exécutif, il faut tendre l'oreille. La petite musique qui monte est celle d'un abandon de la ruralité. Il s'incarne dans plusieurs mesures. La menace sur les petites lignes de chemin de fer, les classes qui ferment dans les écoles des départements ruraux. Cela suscite la crainte des territoires, comme l'on dit, où la question n'est pas tellement premier ou dernier de cordée, mais fait-on partie de la cordée? Ainsi, hier à l'Assemblée nationale, en une heure, pas moins de 6 questions adressées au gouvernement sur ce thème, et ce de la part de différents groupes politiques. D'abord les centristes de l'UDI avec le député Guy Bricout, inquiet de la possible fermeture des petites lignes de train.
On veut déshabiller Pierre pour habiller Paul et faire payer à la ruralité et aux régions le manque de stratégie de l'État sur les dernières décennies.
Et le reproche n'est pas différent au sein de la France insoumise, cette fois avec le député Éric Coquerel.
Est-ce les petites lignes, alors que vous en avez déjà fermé en nombre au nom de la rentabilité? Aujourd'hui, des centaines de milliers de Français n'ont plus de gare et attendent toujours les cars Macron qui ne s'y arrêtent pas puisqu'ils n'ont aucun intérêt financier à le faire.
Voilà, n'en jetez plus. Alors certes, l'abandon de la ruralité par le méchant pouvoir parisien fait partie des classiques de l'opposition. On peut passer la nuit sur les archives parlementaires sans trouver trace d'une époque où les départements ruraux se seraient plaints d'un excès de subventions, d'un flot d'argent indu, d'une surdose d'attention du pouvoir central. Cela dit, cette fois, la crainte gagne jusqu'à la majorité macroniste, pourtant réputée plutôt docile, à l'image de Caroline Janvier, députée En Marche, qui a pris la parole hier dans l'hémicycle.
La volonté de supprimer les lignes de catégorie 7 à 9 desservant de petites villes n'est pas acceptable. Consciente que la notion de service public ne doit pas être antinomique avec un objectif de performance, le principe d'égalité d'accès à la mobilité doit être conservé.
Et c'est vrai qu'il y a de quoi être méfiant. Le fameux rapport Spinetta sur la SNCF, page 48, évoque les petites lignes de chemin de fer, je cite, comme peu utilisées et héritées d'un temps révolu. Cette question symbolise une ambiguïté du macronisme. Le chef de l'État vante la mobilité géographique comme remède aux blocages économiques, mais s'oriente vers une réduction des moyens de cette mobilité dans les territoires ruraux pour des raisons d'économie. Alors le gouvernement conteste fermement tout désintérêt pour les zones rurales. Il oppose son action par exemple pour la fin des zones blanches et le plan très haut débit. Le ministre de l'Éducation souligne aussi que le taux d'encadrement des élèves augmente dans les départements ruraux.
Et la réponse se fait aussi sous forme de symboles.
Oui, avec ses déplacements d'Emmanuel Macron dans les régions sur 2 jours avec une nuit sur place, on prend le temps. De même avec la réception à l'Élysée demain d'un millier de jeunes agriculteurs avant le début du Salon de l'Agriculture la semaine prochaine. Il n'empêche, le reproche accroche, reste, survit comme le sparadrap du capitaine Haddock. Pourquoi? Eh bien parce que chaque député a sa ligne de train à défendre localement, c'est du concret et sur ce sujet, il peut jouer sa réélection. Mais aussi peut-être parce qu'Emmanuel Macron est décrit comme l'élu des grandes métropoles et non pas des territoires reculés. Ce qui est d'ailleurs au passage assez faux. L'actuel chef de l'État a fait de très bons scores dans les zones peu denses de l'Ouest et du Massif central, comme le relève l'ouvrage Le Vote Disruptif, sous la direction de Pascal Perrineau. Mais quand le pli est pris, il devient difficile de lutter. Après Nicolas Sarkozy, vu comme le président des riches, et François Hollande, vu comme le président indécis, Emmanuel Macron sera-t-il vu comme le président des grandes villes?
Merci beaucoup Frédéric Saïs, votre billet politique est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr.